On va prier ensemble. Père éternel, on vient dans ta sainte présence ce matin parce que ton assemblée est assemblée, Seigneur, est réunie. Tu nous dis dans tes Écritures que lorsque ton peuple se réunit pour te louer, pour t'adorer, tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Non seulement dans nos cœurs, mais d'une manière spéciale, au sein de ta congrégation, de ton assemblée, tu es présent ici au milieu de nous, Seigneur. Et ce matin, déjà, on a commencé à t'adorer. On a commencé à t'adorer par nos louanges, par simplement l'accueil qu'on s'accorde les uns aux autres, par une poignée de main, par le souci qu'on a de prendre soin les uns des autres. On est en train, Seigneur, de t'aimer, d'aimer ton Église, de chérir ton nom. Et Seigneur, ce matin, on aborde un sujet super important qui est l'argent. Puis pendant que j'étais en train de me préparer cette semaine, je pensais à ma sœur Mme Grenier, pour qui ces questions-là ont tellement plus aucune importance à ses yeux. Parce que dans ces moments où on a l'impression qu'on reçoit, la lettre de rappel à la maison, Seigneur, les choses prennent leur juste perspective. Elle me partageait cette semaine, tu sais Yannick, quand on est rendu là, il n'y a plus aucune gêne. Tu parles de Jésus tout le temps à tout le monde. Seigneur, c'est comme ça qu'on voudrait vivre par rapport à l'argent aussi, en cherchant d'abord et avant tout le royaume de Dieu. Alors on te prie d'être avec notre sœur Hermance, d'être avec sa famille, Seigneur, qui l'accompagne dans ça, que nous puissions être vraiment une famille, Seigneur, pour chacun d'entre eux. Et on te prie pour nous, Seigneur. Interpelle-nous, remets-nous en question sur cette question des biens matériels, de l'argent, Seigneur. Notre angle, notre approche, notre vision de ces choses-là doit être tellement différente de ceux et celles qui pensent qu'on ne vit que pour vivre ici-bas et qu'après, il n'y a plus rien d'intéressant qui se passe. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur, par ta parole. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.
Le passage de ce matin se trouve dans le livre aux Hébreux, le chapitre 13, le verset 1 à 16. Et je vais lire dans l'édition, nouvelle édition de Genève. Alors, Hébreux 13, le verset 1 à 16. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Le corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.
Merci, Annie. On posait une question, ne répondez pas. Vous seriez vraiment mal à l'aise d'avoir répondu. Savez-vous, c'est quoi le gros lot de la Loto Max cette semaine? 50 millions. Je ne suis tellement pas à jour dans ces affaires-là. Dans ma tête, il y avait juste le 649 qui existait. Là, je suis comme trop vieux. Fait que je ne connais pas trop ces affaires-là. 50 millions. J'allais vérifier, je pense, ce matin ou hier soir sur Internet. 50 millions de dollars. Il y a plein de Québécois, je ne sais pas combien de milliers, j'ai aucune stats, je n'ai pas fait des recherches, mais combien il y a de billets qui vont se vendre cette semaine. Il va y avoir des milliers de Québécois qui vont aller acheter des billets, puis qui vont commencer à rêver. Ils vont se coucher le soir cette semaine en se disant « si je peux gagner ça ». Je pense même avoir vu sur le site web qu'il y a quelqu'un qui a gagné un gros lot complet. Ça se peut-tu dans dernièrement? C'est complètement débile, ce n'est pas partagé à 28 personnes, là. Gros lot au complet. Il va y avoir des milliers de Québécois qui vont s'endormir cette semaine. Vous demandez à quoi rêvent les Québécois quand ils vont s'endormir ce soir? Ils vont rêver à cette source de bonheur certaine qu'ils auraient si le gros lot pouvait leur tomber dans les bras. Puis il va y avoir plein de chrétiens qui vont avoir une petite version, juste un petit peu ajustée chrétienne de ça, qui va dire « Ah, oh, tout le bien que je pourrais faire avec ça, si je pouvais avoir ce gros lot-là, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. » Puis après, évidemment, je garderais peut-être 45 millions pour moi environ, juste pour christianiser un petit peu ce rêve-là. Je fais partie des chrétiens qui se font un point d'honneur de jamais avoir acheté un billet de loto de leur vie. J'ai un problème moral, éthique, profond avec cette affaire-là. J'ai un problème théologique énorme avec ça. Les Écritures ne vont pas du tout dans le sens de gagner. Puis toutes les études sociologiques sur les gagnants sont assez pathétiques à voir. Vous avez juste à faire des recherches là-dessus. C'est pas une grande bénédiction pour la société, cette affaire-là. Ça ressemble beaucoup, en fait, à l'Empire romain, hein? Du pain et des jeux. Bon, c'est ça. Ça ressemble beaucoup à ça. Ça, c'est une autre question. Je voulais juste pas vous laisser sous l'impression que peut-être que je pense que ce serait une bonne idée d'aller vous acheter un billet puis de régler le problème de retard sur les offrandes. Non, merci. C'est beau. C'est pas ça que je suis en train de dire. J'ai un gros problème moral avec cette bibitte-là. Mais qui n'a pas rêvé, sérieusement? Et là, je dois confesser. Qui n'a pas rêvé qu'il y avait une arrière-grand-tante qu'il n'avait jamais connue, tu sais, qu'il l'avait mis sur son héritage parce qu'il était tellement content d'avoir un chrétien dans sa famille, qu'il était devenu pasteur, puis que peut-être il aurait donné $1 milliard ou $1 million, je ne sais pas. Qui n'a pas rêvé à cette gros lot-là qui lui tomberait du ciel puis qui apporterait enfin le bonheur dans sa vie? Parce que l'argent, c'est important. Pour de vrai, l'argent, c'est important. Quand j'ai marqué « j'aime le cash » parce que je voulais vous provoquer, mais en même temps, je veux dire, dans le même passage, Dieu nous dit d'être content de ce qu'on a. Être content, être satisfait, être heureux de ce que j'ai. Il ne dit pas « dépouillez-vous de tout ce que vous avez », il dit « soyez content de ce que vous avez, soyez content de ce que vous possédez ». Et donc, à quelque part, il y a quelque chose de justifié dans tout ça. On en a besoin. On a besoin d'argent. Mais notre rapport à l'argent est tellement, tellement complexe, parle tellement de notre cœur, est tellement difficile. Puis j'ai aimé ce passage-là lorsque je l'ai lu, lorsque je l'ai médité. Quand tu n'as pas assez d'argent pour manger, tu en veux. C'est légitime. Quand tu en as assez, tu en veux plus encore. L'Occident particulièrement a une difficulté absolue à expérimenter le contentement. L'Occident vit difficilement cette vertu chrétienne-là, super précieuse, qui est le contentement. Alors que cette population-là n'a jamais été aussi riche, il n'y a jamais eu autant d'êtres humains aussi confortables dans l'histoire de l'humanité sur le plan financier. L'argent, on en a besoin pour vivre, pour se nourrir, pour se loger au Québec, pour s'habiller chaudement l'hiver, mais en même temps, une fois qu'on en a assez, on n'en a jamais assez. Je l'ai vu de près dans ma famille, j'ai vu des gens tout près de moi, les plus grandes chicanes de famille sont liées au décès des gens qui avaient le plus d'argent. Ça, c'est l'histoire dans ma famille, puis je suis sûr que vous avez des histoires semblables dans vos familles aussi. Ça nous amène dans l'endettement parce qu'on dépense l'argent qu'on n'a pas. Voici comment je résumerai le passage de ce matin. Ce matin, on va voir ensemble que le contentement et la confiance en Dieu, c'est le fondement d'une bonne gestion de l'argent. Je répète ça. Le contentement et la confiance en Dieu. Je sais qu'il y a un petit problème de conjugaison ici, mais c'est de même que je le filais. est le fondement d'une bonne gestion de l'argent. Alors, ce matin, on ne parlera pas beaucoup de gestion. On va parler du cœur qui devrait bien gérer l'argent. On dit souvent que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Moi, je dirais que l'argent est un bon serviteur et un maître cruel. Vraiment cruel. Le passage de ce matin, vous pouvez aller dans vos Bibles avec moi, dans Hébreux 13. Simplement relire les versets 5 et 6. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? » Une vie construite autour de l'augmentation des richesses. La Bible, traduction en français courant, pas toujours la plus fidèle pour vraiment avoir tous les mots, mais souvent intéressante pour comprendre un peu mieux comme l'idée générale du passage. Voici comment elle rend ce passage-là. « Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. » Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Dans toutes nos traductions françaises, on a toute une série de mots qui sont là. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. »« Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. » En grec, il y a juste deux mots qui sont là, ou à peu près, d'accord? Il y a un article, mais il y a deux mots essentiellement. « Vie » et puis « ne pas être avare » ou « ne pas désirer l'argent ». C'est tout ce qu'on a là. Ta vie, qu'est-ce qui va la construire? Où est-ce qu'elle va être orientée? Et ne pas désirer l'argent, ne pas être amoureux de l'argent, ne pas être amoureux des biens matériels. Lorsque le pasteur Tony Colon est venu ici en visite pour une première fois, tout ça, puis on a eu le plaisir de le rencontrer, pour ceux qui ne connaissaient pas, un Cubain qui travaille là-bas à Cuba, qui est en train d'implanter une église, puis on a eu le privilège, à travers quelques personnes, de l'assister un peu, puis on a eu le privilège de l'avoir en visite tout dernièrement. Puis lorsqu'il est venu manger chez nous à la maison, il m'a dit, « Yannick, après qu'on ait jasé un peu, il m'a dit, l'église québécoise est endormie. » Et ça m'a frappé. Je l'ai perçu tout de suite. Je lui ai dit, pasteur Colon, Cuba vient de s'ouvrir à une économie de marché. Hein? Faites attention. Donnez-lui 10, 15 ans, 20 ans. Si Dieu bénit avec la prospérité, l'Église cubaine va être endormie. Une grande partie de notre énergie et des décisions qu'on prend dans notre vie est orientée vers l'augmentation des richesses. Puis là, lorsque je dis ça, c'est de manière très, très saine. D'accord? On rêve d'être autonome de nos parents. On rêve d'établir un foyer. On rêve peut-être de bâtir une famille. On rêve peut-être de se marier. Puis, oh, si le Seigneur bénit pour ça, il dirige dans ce sens-là, on se marie. Puis peut-être qu'on a des enfants. Puis il y a plein de préoccupations hyper légitimes qui nous orientent constamment en direction d'une chose, l'augmentation des richesses. C'est vrai. Puis c'est légitime. Il y a rien de malsain fondamentalement dans ça. Puis même, je peux peut-être rêver justement d'aider des gens autour de moi, prendre soin des gens autour de moi. Je trouve que ce passage-là est extraordinaire parce que Dieu nous donne ensuite le remède. Voyez-vous, le mal vient lorsque la poursuite de l'argent, la poursuite des biens matériels devient l'amour de ma vie. Ça devient ma passion. Je l'ai écrit comme ça lorsque j'étais en train de méditer sur le passage. Quel amour guide ta vie? C'est quoi l'amour qui guide ta vie? Puis si tu veux savoir c'est quoi, probablement que la réponse se trouve dans ce qui t'a le plus préoccupé cette semaine. Ça se peut que non. Ça se peut que non. Ça se peut que tu sois énormément préoccupé par une situation financière difficile. Tu n'as pas d'emploi, tu cherches un emploi, puis tu veux avoir un emploi pour prendre soin de ta famille. Donc peut-être que c'est prendre soin de ta famille, d'accord? mais en même temps, bien souvent, ce qui occupe nos rêves, quand tu n'es plus en train de t'inquiéter, puis que tu commences à rêver, tu rêves à quoi? Tu sais, quand tu as un moment, là, juste comme, c'est cool, tes rêves se portent dans quelle direction? Ça, c'est probablement en train de parler de l'amour de ta vie. Quel amour guide ta vie? Puis l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée 6, les versets 9 et 10, il dit, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » L'amour de l'argent, pas l'argent. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Quel amour guide ta vie? C'est juste vous qui avez la réponse à ça. Dites-moi, c'est pas l'argent. OK, mais je comprends, si c'est une maison, c'est l'argent. Non, c'est ma retraite, c'est l'argent. Parce qu'on va arriver là, c'est au bien matériel. Quel amour guide ta vie? Non, moi, c'est mon épouse. Et peut-être que c'est ça. C'est la femme de ma vie, ou c'est la femme que je n'ai pas encore, ou c'est le mari que je n'ai pas encore. Ça, c'est l'amour qui guide ma vie. Mes enfants. Il n'y a rien de plus précieux pour moi au monde que mes enfants. Ah, c'est ça. En fait, c'est fou, je l'ai mentionné il y a quelques mois, mais ça m'avait vraiment frappé quand j'écoutais... J'écoutais la radio, j'écoutais un podcast, je pense, puis c'était quelque chose ici au Québec, puis c'était quelqu'un de très connu, je ne me rappelle même plus c'est qui, mais c'est juste, ça m'a frappé parce que je l'entends tout le temps. La personne disait, moi ce que j'aime le plus, c'est prendre soin de mes enfants. Puis à l'époque, ça m'avait frappé parce que je m'étais dit, c'est drôle, hein, ils ne parlent jamais de leur amour. Parce qu'évidemment, ils n'arrivent pas à construire un amour durable, alors c'est les enfants qui deviennent le centre de tout ça. Alors, peut-être c'est les enfants. J'ai rien de plus précieux au monde. Qu'est-ce qui est le plus précieux pour toi sur cette terre? Puis les Écritures nous disent que si ta réponse, si ma réponse, c'est tout autre chose que Dieu, il s'agit d'un amour déplacé. Si c'est la santé, si c'est les voyages, si c'est la liberté. Moi, ma passion, c'est juste d'être libre de faire ce que je veux quand je le veux. Ma passion, c'est, je ne sais pas, un domaine où j'excelle. Cet été, on est allé encore au domaine Forget, puis on a écouté une jeune fille faire du chant vocal. Jeune fille, est encore étudiante, chant vocal jazz. Écoutez, je sais que je suis un peu débile, mais j'avais les larmes aux yeux quand je l'écoutais chanter. Est-ce que c'est l'amour de sa vie? Je ne sais pas, je n'ai pas chance avec elle, je ne la connais pas, peut-être pas. Les Écritures me disent, voici, c'est Jésus lui-même qui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux est en train de nous dire ici, c'est que ta vie ne devrait pas être conduite, dirigée par l'amour de l'argent ou par n'importe quoi d'autre que premièrement l'amour de Dieu. C'est lui qui doit être au centre de ma vie. Vous vous rappelez l'illustration de John Piper, je l'ai souvent donnée? Dieu doit être le soleil au centre de ton système solaire. L'argent, la sexualité, la santé, l'amour, tout ça, c'est des planètes qui gravitent autour. Ce matin, on parle d'argent. Si l'argent est bien matériel, c'est le soleil au centre de ton système solaire. Dans ton cœur, dans ton univers personnel, tu es en péril. Tu es en péril parce que c'est la cause de tous les maux. Tu es en péril. Ne vous livrez pas, ne conduisez pas votre vie par l'amour de l'argent. C'est quoi le plus grand amour de ta vie? Maintenant, est-ce que ça veut dire que les chrétiens ne peuvent pas avoir de l'ambition? On a une série qui s'en vient bientôt sur le travail. J'ai vraiment hâte de traiter ça avec vous. On va rentrer dans ça un petit peu plus en profondeur ensemble pendant cette courte série-là. Est-ce que les chrétiens peuvent avoir de l'ambition? Est-ce que les chrétiens peuvent rêver de grandes choses? Est-ce qu'un chrétien peut se lancer en affaires puis rêver de réussir en affaires? Est-ce qu'un chrétien peut rêver d'exceller dans sa carrière, dans sa profession? La réponse, c'est oui à toutes ces réponses, à toutes ces questions. Un chrétien devrait, à quelque part, chercher à être l'employé modèle, le professionnel qui excelle au travail. La difficulté n'est pas là. La difficulté est dans la passion. Qu'est-ce qui est au centre de ma vie? Et j'aime ce passage-là parce que Dieu nous donne le remède à ça. Je le résume comme ceci. Nos ambitions, nos désirs d'une augmentation de salaire, d'une promotion, devraient toujours naître ou grandir dans un cœur qui vit le contentement. Donc, tu veux savoir si tes ambitions sont en train de dominer ta vie, si ça va briser éventuellement ta vie. Tes ambitions sont portées, sont nourries, naissent. Dans quelle sorte de terre? Est-ce que c'est un cœur qui expérimente le contentement? Le contentement et la confiance en Dieu, c'est le fondement d'une bonne gestion de l'argent, d'une bonne gestion des ambitions, de nos désirs. Commence par être content. C'est le deuxième élément ce matin. Je l'ai résumé comme ça. La vraie richesse est d'être satisfait, heureux avec ce que j'ai. C'est drôle, j'écoutais un monsieur il n'y a pas si longtemps parler, puis juste pour mettre les choses en perspective, parce qu'on vit toutes sortes de réalités, hein, puis il y a des gens qui disent « satisfait avec ce que j'ai, c'est parce que j'aimerais ça que mes enfants mangent demain, Yannick. » J'écoutais dernièrement un monsieur, puis il disait « tu sais, poursuivre la richesse, ça ne rend pas heureux, c'est le contentement le secret. » Hein? Je trouvais que c'est bon. J'allais voir sa valeur personnelle sur Internet, 500 millions. OK. Ça met les choses en perspective. Quand tu es rendu là, tu peux commencer à faire la morale à tout le monde, tu sais. Puis tu dis, ben là, je pense qu'il faudrait que je commence à être content. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. La vraie richesse, c'est d'être satisfait, heureux avec ce que j'ai. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dans 1 Timothée, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 6, les versets 6 à 8, « C'est en effet une grande source de gain, de richesse, d'accord? C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Cette semaine, je suis allé prendre du temps avec Mme Grenier. Il y a une grâce qui vient avec la petite lettre que tu reçois du Seigneur qui dit « Je pense que ça s'en vient bientôt, je t'envoie ton ticket pour le grand voyage. » Toutes les choses changent complètement de perspective. Et tu réalises que si je peux manger un peu aujourd'hui, je vais être content, d'abord si ça peut rentrer. Puis... je suis vêtu, ça va. Il y a d'autres choses qui sont tellement plus importantes que ça. La difficulté pour nous de vivre le contentement lorsqu'on a l'impression qu'on est encore ici pour 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans peut-être. Parce qu'on est tous à des étapes différentes de la vie. Ou encore, si ta perspective, c'est de dire « de toute façon, il n'y a rien après la mort », pourquoi est-ce que je me contenterais de peu? Je devrais vouloir tout avoir, j'aurai rien après. Si c'est ça ta croyance, si c'est ça ta foi. Le contentement, c'est drôle, hein? Des fois on perd le sens d'un mot qui nous semble vieux, fait qu'on oublie qu'est-ce que ça représente. Le contentement contient un mot qui dit content. Être heureux, être satisfait. Ça veut dire m'arrêter, considérer ce que j'ai, dans mon assiette, autour de moi, considérer ce que je n'ai pas, puis être capable de dire avec un cœur heureux, « Merci Seigneur, ça me va comme ça. C'est bon, j'aime ça. » Je suis content. Je suis serein. Je suis en paix. Et cette vertu chrétienne-là ne se travaille pas quand tu as de l'argent. Bon, ça se travaille toute la vie, tu sais. Mais le meilleur moment pour le travailler, c'est d'avant d'avoir de l'argent. Tu sais, apprendre à être généreux, là, le moment le plus facile, là, c'est quand tu n'as pas beaucoup d'argent. C'est tellement plus facile. Moi, j'ai réglé ça au début de ma vie chrétienne. Je veux donner généreusement. À un moment donné, je regardais ce que je donnais, puis je disais, hey, c'est un paiement de char qui vient de partir. Wouh! Plus de problème. J'avais commencé à donner quand ça ressemblait à un paiement de je ne sais pas quoi, tu sais, soirée au cinéma. Même chose avec la pureté. Parle avec des jeunes hommes, lutte avec la pureté et tout ça, puis dis, oh, quand je vais être marié, ça va être réglé. Bah! Tu veux rire de moi? Si tu savais comment on est pervers, mon copain, une se passée, il t'en faut 70. Il n'y aura rien de réglé quand tu vas te marier. Ça se règle avant. Le contentement, ça s'apprend maintenant, aujourd'hui, avec ce que tu as et ce que tu n'as pas, que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Toujours l'apôtre Paul dans Philippiens dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content, satisfait, heureux de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Quand tu sers à Bouffe pour tous, notre banque alimentaire, le privilège que tu as, c'est de voir des gens qui sourient, même quand lorsqu'ils sont dans des moments super difficiles financièrement. Puis aussi, ça met un petit peu les choses en perspective. Tu sais. Ils viennent pour chercher de la nourriture, puis toi, tu es en train de te demander comment je vais payer les vacances. Mets les choses en perspective. Mais l'apôtre Paul nous dit que le contentement, ça s'apprend dans la richesse et dans la pauvreté. On a vécu au début du ministère des années où, je ne sais pas qu'est-ce qu'on mange cette semaine, prier pour que Dieu donne de la nourriture, parce qu'une fois qu'on avait payé les obligations minimales, pas la voiture, là, pas les sorties, pas le linge, juste comme pour payer le loyer au moins si on ne veut pas dormir dehors. Puis honnêtement, mon cœur était content. Pour de vrai, personnellement, dans mon expérience, je trouvais plus facile d'être content à cette époque-là qu'aujourd'hui. Je dois plus veiller sur mon cœur maintenant. Je suis transparent avec vous. Et tout ce que je suis en train de dire, c'est que le contentement, c'est une vertu chrétienne qui se travaille aujourd'hui. Que tu sois écrasé par les dettes, que tu aies un emploi prometteur, que tu sois sans emploi, que tu te demandes qu'est-ce que tu vas manger demain. Et c'est le privilège d'être dans une assemblée comme celle-ci. Vous n'avez pas idée peut-être à quel point les gens dans l'Église ici vivent ce matin en venant ici. Des situations diamétralement opposées sur le plan économique. Complètement à deux extrêmes. Je viens d'arriver au Québec, on couche sur des matelas, on range notre linge à côté du matelas parce qu'on n'a pas de meubles pour ranger le linge. Je ne sais pas si je fais deux voyages cette année. Est-ce qu'on s'en va en Orient, en Europe? Je ne suis pas sarcastique, les amis. Ça, c'était l'Église du temps des apôtres aussi. Et donc, on vit toutes sortes de réalités. Puis on veut être là, on veut prendre soin des uns des autres. La semaine prochaine, on parle de la générosité. On va être une Église qui prend soin des uns des autres. Mais le contentement, vous vous demandez quand est-ce que vous allez l'apprendre, vous pouvez l'apprendre, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Ce n'est pas « je serai content lorsque ». Ça veut dire que tu n'es pas content. Est-ce que tu vis le contentement? Ça se pratique de manière super simple. Honnêtement, ce n'est pas tellement compliqué. En disant merci. Le contentement, c'est juste l'état d'esprit de quelqu'un qui dit souvent merci. C'est ça le contentement. Le contentement, c'est l'état d'esprit dans lequel tu es lorsque tu dis plus souvent « Merci Seigneur » que « C'est ça le contentement. Lorsqu'on était avec les enfants, puis les enfants étaient tout petits, puis ils étaient assis à table, puis on commençait à manger, puis là, bon, nous, on aime les affaires bizarres, fait qu'il y avait toutes sortes d'affaires bizarres autour de la table. Mais quand même, sans ça, on a un réfrigérateur déjà. Ce que Salomon avait pas vraiment, tu sais, sa glace, il devait la faire venir de vraiment loin, puis des fois, c'était pas beau quand ça arrivait. Je suis pas sûr que t'en mettais dans ton verre d'eau, tu sais. Puis là, on s'assoyait avec les enfants, puis on disait aux enfants, « Savez-vous quoi, les enfants? » Salomon avait probablement pas tout ça autour de sa table. Parce que techniquement, c'était pas faisable. On est beaucoup plus pauvre que Salomon l'était à son époque, mais en même temps, on est tellement plus riche que le roi Salomon, parce qu'il y a des choses... Hey, moi, je m'en vais dans le réfrigérateur, je prends de la glace, je me mets ça dans la bouche. Je sais pas par où elle passait sa glace pour qu'il puisse la mettre dans la bouche, Salomon. Il fallait que ça parte du Nord, que ça descende au Moyen-Orient. Je sais pas. Mais on a juste enseigné aux enfants très, très jeunes. On dit, les enfants, est-ce que vous êtes capables de mesurer la richesse que vous avez? Et notre objectif, c'était juste de cultiver dans leur cœur cette action de grâce-là. Cette attitude qui dit « je rends grâce ». Constamment, je rends grâce. Je dis merci au Seigneur. Alors, si tu veux développer ce muscle-là du contentement, tout ce que tu as à faire, c'est à dire merci. Merci pour ce que j'ai. Merci pour ce que j'ai déjà. Merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour la santé que j'ai. Merci pour les amis qui sont autour de moi. Merci pour l'Église qui est là. Merci parce que j'ai quelque chose à manger. Je ne sais pas pour demain, mais là, j'ai quelque chose à manger. De toute façon, demain, tu n'as aucune idée de quoi c'est fait, je te le garantis. Tu ne le sais pas du tout. Tu ne sais pas si demain existe. Mais aujourd'hui, tu peux dire merci 10 fois, 100 fois avant de te coucher. Puis expérimenter ça dans ton cœur, le contentement. Si vous dites, je ne vis pas le contentement, Yannick, je n'arrive pas à vivre ça. Je vous mets au défi, sérieusement. Des fois, vous dites, c'est théorique, les preach. Je suis super pratique, d'accord? Prenez une petite feuille, marquez merci, cochez-les toutes les fois que vous allez le faire cette semaine. Assurez-vous de le faire 100 fois. Juste dans votre cœur, merci Seigneur pour, merci Seigneur pour, merci Seigneur pour. Venez me voir dimanche prochain, puis dites-moi que vous ne vivez pas plus le contentement, que ça n'a pas grandi dans votre cœur. Peut-être que ce sera le cas. Je vais prier pour vous, pas de problème. C'est simple, grandir dans le contentement. Ça commence là. Après ça, Dieu va aller adresser des choses. Dieu va aller adresser des choses dans votre cœur. La confiance en Dieu. Le passage est super intéressant parce que il dit au verset 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Mon contentement, comme chrétien, vient directement de ma confiance en Dieu. Voyez-vous, un chrétien ne s'assoit jamais pour dire, « Je suis content parce que je suis vraiment sa coche, puis grâce à mes capacités, j'ai réussi à accumuler toutes ces richesses-là. Puis, boy, je suis quelque chose, je suis quelqu'un, moi. » Le contentement pour le chrétien est toujours lié à la confiance en Dieu. Constamment. Donc, si cette semaine, vous commencez de manière pratique à dire « Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur », oui, ça se peut que Dieu vous révèle que dans votre cœur, vous avez de la difficulté à lui faire confiance. Il y a des insécurités, il y a de l'anxiété qui est en train de s'exprimer, qui est en train de se manifester. Je vous relis le passage. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? » Cette confiance-là qu'on va expérimenter est liée à notre confiance en Dieu. Cette paix-là, ce contentement-là, qui va me libérer, qui va me dégager d'une passion pour les richesses, est directement lié à ma confiance en Dieu. Parce que je connais Dieu, je peux m'arrêter et dire, « Seigneur, je n'aurai pas un cœur ingrat, je vais dire merci pour ce que tu m'as donné. Puis je sais que tu es là pour prendre soin de moi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance que tu vas continuer à être là. » Et c'est l'expression directe de ma confiance en Dieu. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, les richesses puis les biens matériels parlent constamment de ton identité. Ce que tu possèdes comme richesse va déterminer ta valeur, ça va déterminer ton statut social. Puis là, il va falloir que tu fasses plein de jeux dans ta tête pour dire non, c'est pas vrai, parce que lorsque tu vas vers quelqu'un qui est vraiment mal pris dans la vie puis qui pourra peut-être pas réussir à faire des sous, tu vas dire, tu sais, t'as beaucoup de valeur, tu sais, t'as énormément de valeur. Mais lorsque tu t'en vas, toi, pour toi, ta valeur, ton identité, tout ce que tu vaux est lié à ton statut social, à tes revenus, à ce que tu es capable de réaliser avec ton argent, une bonne partie. Pour un chrétien, la perspective est complètement différente. Je crois profondément dans mon cœur que si je me tiens debout aujourd'hui, c'est parce que Dieu a décidé de m'accorder encore aujourd'hui la santé. Ah, je fais des choses pour me tenir en forme, j'ai mon rôle à jouer dans tout ça, mais si Dieu décidait qu'il me retirait la santé, il n'y en a plus de santé. Je ne pourrais pas me battre contre Dieu. Je crois que la nourriture que je mets sur la table, qui a été gagnée à travers un salaire, c'est Dieu qui m'a donné l'emploi, c'est Dieu qui m'a donné les capacités. Et donc, j'ai cette conviction profonde que tout ce que je possède est en fait une provision que Dieu m'a donnée. Ce que Dieu me donne, toutes mes richesses, ne peuvent pas définir ma valeur. Le premier acteur dans tous mes biens que je possède, c'est Dieu, ce n'est pas moi. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez ça? C'est super important là, ce que je vous dis. Vous voulez être libéré de l'idole de l'argent? Votre identité ne doit pas être liée à ça. Comment est-ce que vous allez y arriver? Réalisez que tout ce que vous l'avez parce que Dieu vous l'a accordé. Même si c'est à la sueur de ton front, tu peux juste suer parce que Dieu te permet d'avoir un job. Même si tu as travaillé fort, tu peux juste travailler fort parce que tu as la santé pour travailler fort. Et ceux qui cherchent de l'emploi actuellement savent c'est quoi. Combien un travail, quel qu'il soit, qui permet de nourrir ma famille, est une bénédiction incroyable. Ils vont dire merci Seigneur. Le contentement est directement lié à ma confiance en Dieu. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux cite deux passages dans l'Ancien Testament. Je vais m'arrêter surtout sur un des deux passages, d'accord? Dans le premier passage, probablement qu'il est en train de citer Deutéronome, puis dans l'autre passage, il est en train de citer le psaume 118. Deutéronome 31, psaume 118. Si vous voulez aller plus loin dans la réflexion, vous irez méditer sur le psaume 118, d'accord? Mais Deutéronome 31, c'est quoi le contexte probable de cette citation-là que j'ai? C'est au verset 5 lorsqu'il dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Dans Deutéronome 31, Dieu est en train de préparer le peuple d'Israël, en fait, à travers Moïse, son serviteur, à ce que Josué vienne prendre la relève. Et le peuple d'Israël va devoir se lancer à la conquête de la terre promise. Puis il va y avoir des adversaires incroyables à affronter. Puis ça, c'est le contexte historique de l'époque. Le peuple sait que ça va être difficile parce qu'ils ont déjà reviré de bord. Si vous connaissez votre Ancien Testament, ils ont déjà reviré de bord. Chicken, pissou, ah! Ça a pris 40 ans avant que le Seigneur leur dise « OK, on va voir si vous me faites confiance. » Et là, Dieu parle à son peuple. Dans Deutéronome 31, 4 à 8. « L'Éternel traitera ses nations comme il a traité Sion et Og, rois des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même avec toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point, ne t'effraie point. » Une des choses qu'on découvre lorsqu'on commence à étudier le Nouveau Testament, c'est que le combat spirituel, la guerre spirituelle, se vit beaucoup plus dans le cœur qu'à l'extérieur du cœur. Il y a des guerres spirituelles qui se vivent dans des conflits de travail. dans des conflits à la maison, dans des situations où j'ai besoin de remettre à Dieu des choses. Et en réalité, tout ça nous parle plus de notre cœur que des situations extérieures. C'est vraiment intéressant que l'auteur de la lettre aux Hébreux cite un passage où Dieu veut encourager Josué et le peuple d'Israël alors qu'ils vont faire face à des armées physiques, des gens qui vont être devant eux, qui vont essayer de les tuer. Tu vas rentrer dans un champ de bataille et que Dieu t'appuie ou non va déterminer si tu vas sortir du champ de bataille debout ou les pieds devant. Ça ne peut pas être plus vrai que ces gens-là veulent me tuer. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, pense à ça quand tu penses à l'argent, quand tu penses à tes peurs, quand tu penses à ton anxiété. Pense à ça parce que ça s'applique à toi. Parce qu'il y a une guerre spirituelle qui se livre dans nos cœurs à chaque jour, à savoir, est-ce que je vais faire confiance à Dieu? Oui, mais Seigneur, la situation est désespérée. J'ai besoin d'un emploi, ma famille pourrait être jetée à la rue. Oui, mais Seigneur, je me suis entouré de tellement de dettes, je me suis engagé dans tellement de dettes, la situation est noire, Seigneur. Seigneur, je ne suis plus capable avec ce job-là, puis je suis coincé là parce que j'ai plein d'engagements. Seigneur, ça fait des années que je lutte avec cette idole-là, qui est l'argent et les biens matériels. Je n'arrive pas à vivre le contentement. Je n'arrive pas à être heureux avec ce que j'ai. L'auteur de la lettre aux Hébreux me dit que cette guerre-là que tu es en train de vivre dans ton cœur est aussi réelle que celle que le peuple d'Israël a eu à livrer lorsqu'il a dû affronter ses adversaires. Et c'est possible de livrer cette guerre-là dans la prière, en rendant grâce à Dieu, en disant, Seigneur, je veux apprendre à te faire confiance. Vous savez quoi? On a choisi de faire confiance. Si vous êtes chrétien, vous avez choisi de faire confiance à Dieu pour votre éternité. C'est vrai? Si vous avez vraiment compris l'Évangile, vous savez que vous n'êtes pas très bon pour devenir parfait. Puis, tu sais, vous ne pourrez pas vous présenter devant Dieu en disant, regarde, je suis tellement cool, je suis aussi beau que toi, tu pourrais m'accueillir pour avoir un party ensemble. Non, vous savez que vous êtes des pécheurs et vous avez besoin de la grâce. Regardez ce que le passage nous dit au verset 9. Je vais juste citer une toute petite partie du verset. « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Tout ce qui m'intéresse pour ce matin, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. » L'auteur de la lettre aux Hébreux termine sa lettre en nous ramenant à l'Évangile. Le cœur est affermi par la grâce. Vous avez appris à faire confiance à Dieu. Si t'es chrétien, t'as appris à faire confiance à Dieu, comme Mme Grenier, qui a reçu son billet, là. Elle sait que le train s'en vient. Elle a appris à faire confiance à Dieu en affermissant son cœur dans la grâce. C'est ça sa sécurité. Pour nos biens matériels, pour nos besoins bien réels sur la terre, on a besoin d'être affermi dans la grâce. Et l'auteur va nous dire, allons rejoindre Jésus qui est à l'extérieur de la cité, qui a été pendu au bois, qui a subi l'opprobre, qui a subi le mépris, puis acceptons de vivre cette vie-là avec lui parce que la cité que nous poursuivons n'est pas une cité sur la terre. C'est la cité permanente qui est dans le ciel. Et de la même manière que j'ai appris à faire confiance à Dieu pour qu'il prenne soin de mon âme pour l'éternité, je veux apprendre à faire confiance à Dieu pour qu'il prenne soin de mes besoins. Pour apprendre à faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire merci au Seigneur constamment. Merci Seigneur pour ceci, merci pour ça, merci d'avoir pourvu Seigneur. Et je vais veiller sur mon cœur pour chasser cette idole qui veut s'installer et qui est fermement ancrée dans la vie de l'Église occidentale, l'amour pour l'argent. Puis ce soir, en m'endormant, au lieu de rêver à tout ce que je pourrais faire avec un gros lot de 50 millions de dollars, je vais m'endormir en disant, merci Seigneur, parce que c'est une autre journée qui se termine, que j'ai vécue avec toi, puis tu m'offres le repos cette nuit, puis puis demain, je vais te servir encore avec ce que tu vas me donner. Amen. On va prier ensemble. Père éternel, je veux te dire merci premièrement pour toutes les personnes qui sont ici ce matin. Père, on vit tous des situations différentes avec des défis qui sont différents. Ces défis se traduisent parfois dans nos cœurs en troubles, en anxiété, en peur, Seigneur. Et tu nous révèles nos cœurs, tu nous montres les idoles de notre vie, Seigneur. Je veux te remercier pour ta parole qui est tellement puissante pour dévoiler nos cœurs, pour nous aider à voir la vie, à voir le monde comme toi, Seigneur. Je veux te remercier pour ta parole qui est concrète et pratique, Seigneur. Père, je te prie de nous enseigner à laisser naître nos rêves, nos ambitions dans un cœur qui est premièrement content, satisfait, reconnaissant, rempli de confiance en toi, Seigneur. Père, j'aimerais te prier pour ceux qui ont besoin d'un emploi. Ceux qui ont des besoins très concrets. On n'est pas dans le superflu, on est dans le nécessaire, Seigneur. Aide-nous à être en église ensemble, à prier pour eux, à prendre soin, à être généreux comme on va le voir la semaine prochaine, Seigneur. Mais en toute chose, apprends-nous. Apprends-nous à dire merci. Dans la richesse et dans la pauvreté, Seigneur. Dans l'état où nous nous trouvons. Apprends-nous à dire merci, Seigneur. Et apprends-nous à poursuivre, d'abord et avant tout, cette cité éternelle, Seigneur. Ce royaume qui t'appartient. Et à vivre pour ce royaume dès maintenant. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen.